Merci. En tout cas, pour moi, c'est une joie, un plaisir d'être au milieu de vous. De toute façon, chaque fois que je suis au milieu des enfants de Dieu, c'est toujours une joie et un plaisir. Et je pense que, quel que soit le lieu où nous sommes en famille. Parce que nous formons, nous l'avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas, cette grande famille qui sommes en route vers la maison du Père, n'est-ce pas? Et notre sœur, tout à l'heure, a dit une chose qui m'a marqué, parce que pendant qu'elle le disait, j'étais en train de penser dans mon cœur, et c'était très fort à ce moment-là. C'est notre sœur, quand elle a dit, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans des boîtes, et il faut qu'ils libèrent leur énergie un tout petit peu, et enfin, il faut qu'ils sortent de leur boîte. Et moi, j'étais en train de sentir, je me dis, mais je sens une grande énergie dans cet endroit, quelque chose de fort, mais en même temps, c'est juste un potentiel. Vous savez, un potentiel, quand on l'a, c'est le potentiel. Mais si on ne l'utilise pas, il reste juste un potentiel. C'est dommage d'avoir autant de capacités, de potentiel et de ne pas l'utiliser. Donc, ayez foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il vous a donné des capacités. Il vous a rendu capable de faire des choses dont vous n'avez même pas idée. Simplement, laissez-le agir en vous. Donnez-lui vos cœurs et puis laissez-le vous conduire. Ça ne peut être qu'une aventure merveilleuse, vous savez. Ma sœur qui m'a présenté, donc moi j'ai un problème, c'est que j'oublie les prénoms. Ma sœur qui m'a présenté a dit, il se présentera lui-même. D'accord ? Je m'appelle donc Jean-Émile Ngom. Je suis d'origine camerounaise. J'ai appris que votre prochain pasteur est camerounais. Donc, je sais de quoi il retourne. Et je suis en France depuis très longtemps. Je suis enseignant. J'enseigne les mathématiques et les sciences physiques. Je suis marié avec une merveilleuse femme qui s'appelle Eliane. Ma sœur Anne-Marie a eu l'occasion de nous rencontrer à l'église de Bussy, parce que je suis à l'église de Bussy. En tant que pasteur stagiaire, j'ai beaucoup servi dans diverses églises. Et je connais le Seigneur depuis bien avant que les 90% de cette salle soient nés. Oui. J'ai fait la merveilleuse rencontre avec le Seigneur en 1977. Ça date. Donc voilà. Et c'est un plaisir, je peux vous dire. C'est bien d'avoir du potentiel, mais il faut le mettre à l'œuvre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne peut être qu'une aventure extraordinaire. Alors, je ne vais pas m'étendre plus loin. Est-ce que je vous ai dit que j'avais quatre enfants ? Non. Alors, j'ai quatre enfants, trois garçons, et puis une dernière. Hein. Elle a 18 ans, voilà. Et bien, je suis très content d'être là avec vous ce matin. Moi, je suis en général très libre dans la maison du Seigneur. Je vous dis, partout où il y a des enfants du Seigneur, je me sens chez moi, je suis à la maison. Donc, ne soyez pas surpris si je me comporte comme quelqu'un qui est chez lui. Parce que la maison du Seigneur, c'est ma maison. Et vous, vous êtes mes frères et mes sœurs. On a déjà lu le passage, et je crois que vous avez fait attention au passage que nous avons lu. Il nous parle d'un paralytique qui était dans un endroit qu'on appelle Bethesda, une piscine, n'est-ce pas ? Une piscine qui jouxtait le temple à Jérusalem. Alors, il va falloir que je me serve de ceci. Je ne sais pas où je dois le pointer déjà. Ah, tiens, j'y suis. Donc, vous savez, Bethesda, ce n'est pas une vue de l'esprit. Bethesda, c'est un endroit qui a été redécouvert par les archéologues. Et ici, je n'ai pas de pointeur, mais je vous dis, mon pointeur, il est comment ? Il est là ? C'est le point rouge ? Oh bon. Comment ça marche ? Voilà. Mon pointeur, il est là. D'accord. Là, c'est Bethesda. C'est la piscine de Bethesda. C'est à cet endroit, n'est-ce pas, que se trouvait cet homme paralytique. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la porte des brebis. Là. Donc, quand on était à Bethesda, à travers la porte des brebis, on pouvait voir ici l'enceinte du temple. Là, c'est le temple. Donc, voilà à peu près comment ça se trouvait à cette époque-là. N'est-ce pas ? Ça, c'est Jérusalem à l'époque de Jésus. Donc, elle vous l'a dit. Le titre de mon message, c'est « Jésus, la véritable maison de miséricorde ». Jésus, la véritable maison de miséricorde. Pourquoi je l'ai appelé ainsi ? Vous savez, en hébreu, le mot Bethesda signifie maison de miséricorde. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce que ce lieu porte réellement le nom qui lui convient ? Est-ce que Bethesda, tel que nous l'avons lu, n'est-ce pas, est une maison de miséricorde ? Parce que quand on regarde la définition du mot miséricorde, il dit ceci. La miséricorde est la bonté de Dieu qui lui fait pardonner les fautes des hommes et les renouvelle dans leur dignité pour qu'ils puissent se relever et que puisse accomplir en eux le dessein d'amour de Dieu. N'est-ce pas ? C'est ça la miséricorde. Et ce lieu s'appelait Bethesda, maison de miséricorde. En fait, je ne pense pas que ce lieu portait vraiment le nom qui lui convient. Parce que quand on regarde ce lieu, Bethesda était un endroit de misère. Un endroit de misère, pourquoi ? Parce que le passage nous dit qu'il y avait là-dedans des estropiés, des aveugles, des malades, toute espèce de personnes qui étaient physiquement mal en point, et peut-être pas physiquement. Pourquoi ces gens étaient-ils là ? Peut-être qu'ils étaient là parce qu'ils avaient quelque chose à se faire pardonner, n'est-ce pas ? Peut-être qu'ils étaient là parce qu'ils avaient péché. C'est la maison de miséricorde. Vous savez, quand on regarde le passage qu'on a lu au verset 14, Jésus dit au paralytique, « Te voilà guéri, ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc on peut supposer, à un moment donné, que ce monsieur était là parce que certainement il avait des choses à se reprocher et que sa maladie était la conséquence, n'est-ce pas, de ce qu'il avait fait. Mais est-ce que Bethesda était seulement un lieu de misère ? Était seulement un lieu de misère ? Non, je ne pense pas. Je crois que Bethesda était aussi un lieu d'espoir déçu, un lieu de frustration. Pourquoi je le pense ? Déjà, il y a dans ce lieu, la Bible nous a dit, des personnes qui étaient malades depuis très longtemps. Celui dont il est question ici était là depuis 38 ans. 38 ans, c'est long. Je crois que très peu dans cette salle ont 38 ans. N'est-ce pas ? 38 ans, c'est long. Donc, il est là depuis 38 ans. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Mais cet homme, il n'est pas venu tout seul dans ce lieu. On peut imaginer qu'au début, il y avait peut-être la famille qui était avec lui, des amis qui étaient avec lui, et qui, de temps en temps, peut-être, essayaient de le jeter dans la piscine pour que cet homme guérisse. Parce qu'à Bethesda, il y avait un mystère. La Bible nous dit qu'il y avait un ange qui venait, qui agitait l'eau, et le premier qui descendait dans la piscine était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc cet homme était arrivé plein d'espoir. Il se disait, je vais certainement guérir d'ici quelques temps parce que de toute façon, je vais être le premier à aller dans l'eau. Beaucoup pensons comme ça, souvent dans des situations, n'est-ce pas ? Mais il est là depuis 38 ans. On peut penser que cet homme, sa famille, l'avait mis peut-être tout au bord de la piscine. Et quand l'eau s'agitait, il plongeait dans l'eau, mais il n'était jamais le premier. Il y avait toujours quelqu'un après lui. Et peut-être même, on peut supposer, que quand il était le premier à descendre, c'était simplement une fausse alerte. Parce qu'un plaisanteur avait jeté quelque chose dans l'eau, ou bien que le vent avait soufflé trop fort et que l'eau s'était agitée, il était le premier, mais ce n'était pas l'ange qui avait agité l'eau et il n'était pas guéri. Alors vous comprenez qu'au fil des années, je présume qu'au fil des années, on a vu les amis s'éloigner. On a vu la famille doucement être de moins en moins présente. Et cet homme est resté là, tout seul. Ses espoirs étaient complètement déçus. Il était venu en se disant, je vais être guéri. Mais 38 ans après, il était toujours au même endroit avec sa maladie. Le problème, c'est que 38 ans après, cet homme avait vieilli. Il n'avait plus ses 20 ans. Il n'avait plus ses capacités, enfin, les quelques capacités qui lui restaient. Oui, c'était un lieu d'espoir déçu, un lieu de frustration. Alors, cet homme est resté là, on a vu. En fait, il s'est résigné. Parce que Bethesda est devenu pour lui un lieu de résignation. Vous savez, quand on se résigne, on continue à faire les mêmes choses, mais on n'espère plus grand-chose. Cet homme était là, face à cette piscine, il espérait. Enfin, il regardait les autres être guéris. Il avait espéré guérir, mais il savait qu'il ne guérirait plus. Parce que de toute manière, les autres seront toujours plus rapides que lui. N'est-ce pas? Et ce qu'il dit à Jésus au verset 7, moi, me touche particulièrement. Il lui dit, si je peux résumer, je n'ai aucun espoir de guérir par l'eau de cette piscine et pourtant je suis là. Il dit à Jésus, je sais que de toute façon je ne guérirai pas, mais c'est là que je suis. On a envie de demander à cet homme, mais pourquoi es-tu toujours là? Qu'est-ce que tu fabriques là? Oui, cet homme est résigné. Il subit sa vie. Je dirais pire, il subit sa survie. C'est peut-être le seul endroit qui lui restait, le seul endroit où il se sentait bien. Enfin, si on peut se sentir bien en un endroit comme celui-là, c'est une vraie tristesse. Et cet après-midi, moi, je veux te poser une question. À quel endroit te trouves-tu? Dans quel lieu es-tu cet après-midi? Par rapport à ta foi, par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à tes espoirs, par rapport à tes projets, dans quel endroit es-tu? Parce que voyez-vous, le monde dans lequel nous vivons ressemble un peu à Bethesda. Nous sommes dans un monde où la loi du chacun pour soi est celle qui prime. Et c'était la loi qui primait à Bethesda. C'était le chacun pour soi. Pousse-toi pour que moi, je rentre le premier dans la piscine. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le monde n'a pas tellement changé depuis. N'est-ce pas? Peut-être que tu es dans l'église. Et tu avais des illusions, tu avais des espoirs, tu avais des projets. Et tu ne les vois pas se réaliser. Peut-être que tu es dans l'église et tu vis dans la culpabilité de ton passé. Tes rêves se sont évanouis. Tu as espéré beaucoup de choses et voilà, rien ne se passe comme tu le voulais. Pourtant, tu as prié. Mais le ciel semble fermé. Et tu es là, en ne t'attendant plus à voir le Seigneur agir. Mais tu es là par habitude. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est triste d'être dans la maison de Dieu, être résigné et blasé. Nous avons dit et nous avons chanté que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons chanté que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Dans quel lieu es-tu cet après-midi? Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelque temps, j'avais une collègue. Cette jeune dame était brillante à tout point de vue. Elle avait une qualité de travail extraordinaire. ses collègues la jalousaient parce que son travail était excellent. Vraiment, tout le monde le reconnaissait. Mais elle est venue me voir un jour. Et elle a discuté avec moi. Cette dame m'a ouvert son cœur et c'était une vraie désolation. C'était tout simplement, je ne trouve pas le mot exact, mais une vraie désolation dans son cœur. Parce que cette jeune dame était amoureuse de quelqu'un qui la faisait vivre dans l'insécurité la plus totale. Il n'était pas marié. Et pour un oui ou pour un non, ce jeune homme faisait ses clics et ses claques et s'en allait. Il revenait 2 mois plus tard et se réinstallait comme si de rien n'était. Et elle était là, attendant désespérément qu'il revienne. Je lui dis, mais comment tu peux supporter ça? Oui, pour elle, son Bethesda, c'était sa vie sentimentale. Et peut-être, beaucoup ont, là où ils sont, leur Bethesda. C'est pour ça que j'ai posé la question. Dans quel lieu es-tu ce matin? Pour ce paralytique dont nous avons parlé, il était dans un lieu de désolation, un lieu de misère, un lieu d'espoir, d'espérance déçue, un lieu de résignation. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que si l'histoire s'arrêtait là, alors je crois que vous rentreriez déprimé ce soir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Jésus vient. Jésus vient dans ce lieu. Jésus vient à Bethesda. Jésus vient vers eux. Je suis en retard. Jésus vient dans ce lieu. Mais qui est ce Jésus qui vient? Nous l'avons chanté. C'est celui qui a le pouvoir de guérir tous les malades. N'est-ce pas? Si on lit dans Matthieu 8, 14 à 16, il est dit ceci, en parlant de Jésus dans la maison de Pierre. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec la fièvre. Il la toucha et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Voilà lequel Jésus était arrivé à Bethesda. Celui qui avait le pouvoir de guérir autant de malades qu'on les lui amenait. Jésus, c'est celui qui est la porte des brebis et qui leur donne la vie en abondance. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous rappelez, à Bethesda, il regardait la porte des brebis qui donnait sur le temple. Mais ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple parce qu'ils étaient estropiés. Des personnes estropiées n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Mais Jésus qui est venu afin que les brebis aient la vie en abondance était celui qui était dans ce lieu-là. Ce qui est dramatique, voyez-vous, c'est que Jésus est venu dans ce lieu et eux ne l'ont pas reconnu. Jésus est venu à Bethesda et les malades qui étaient là n'ont pas reconnu Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes pour quelque chose, vous attendez quelque chose et celui qui a le pouvoir de vous l'apporter, vous passez à côté de lui et vous ne le reconnaissez pas. Jésus était le porteur d'espoir et pourtant, ils sont passés à côté. J'ai demandé tout à l'heure dans quel lieu étais-tu. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Mais il n'y a de l'espoir que si dans ta situation, tu es capable de reconnaître Jésus quand il passe par là. Et Jésus est ici cet après-midi. Dans toute cette foule, il y a une personne, le vieil homme malade depuis 38 ans, qui a pu bénéficier de la présence de Jésus. Jésus lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ça semble surprenant quand vous pose une question comme celle-là dans un lieu comme celui-là. Veux-tu être guéri? Mais on a envie de dire, Seigneur, tu vois bien que je suis là. Si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'être guéri. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ma collègue. Elle est venue, elle m'a ouvert son cœur et je lui ai alors parlé de ce Jésus. De ce Jésus qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui donne une nouvelle vie. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Je ne veux pas de ce Jésus-là, parce que je ne suis pas prête. Elle était prête à continuer à vivre sa vie dans une dépendance et une insécurité totale, plutôt que de choisir celui qui avait le pouvoir de lui donner le bien-être, l'assurance, la paix après laquelle elle courait. Veux-tu être guéri? Vous savez, il y a plein de personnes qui sont prêtes à courir les marabouts, qui sont prêtes à courir toutes les personnes. Mais si vous leur dites, venez à l'église, on va prier pour vous, elles vous diront, je ne veux pas de cela. Alors, veux-tu être guéri? C'est une question qui a tout son sens. Et vous verrez que Jésus, très souvent, la pose. Est-ce que dans ta situation, dans le lieu où tu es, tu as envie, tu as besoin, tu éprouves le besoin d'être guéri par Jésus? Veux-tu être guéri? Alors cet homme répond à Jésus et lui dit, tu sais, quand je vais vers la piscine, quelqu'un d'autre va avant moi. Et puis je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est troublée. En fait, il disait à Jésus, je veux bien être guéri, mais je sais que je ne serai jamais guéri par l'eau de la piscine. On a dit tout à l'heure, c'était un homme résigné. Veux-tu être guéri? Alors, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Celui qui est la véritable maison de miséricorde va lui dire, prends ton lit, lève-toi, prends ton brancard et va chez toi. Je ne sais pas, on le lit comme ça, mais ce n'est pas aussi simple. Cet homme est couché depuis 38 ans. Et quelqu'un vient et lui dit, maintenant tu es guéri, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Il fallait une sacrée dose de foi pour croire ce qui était dit. Mais encore plus pour obéir à ce qui était dit. Cet homme-là, le paralytique, a cru la parole que Jésus lui a dite. La Bible nous dit qu'il s'est levé, qu'il a pris son brancard et qu'il a marché. Il a exécuté ce que le Seigneur lui avait dit. Vous savez, je veux vous dire à cette fameuse question cet après-midi, est-ce que tu veux être guéri? Quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes circonstances, si Jésus rentre dans ta maladie, s'il rentre dans tes circonstances, alors il va se passer quelque chose de nouveau pour toi. Parce qu'il est celui qui redonne de l'espoir. Il est celui qui apporte la guérison. Il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. J'ai aimé le témoignage de notre sœur tout à l'heure qui a connu une inondation chez elle. Voyez-vous, elle a rendu grâce à Dieu parce que les circonstances ont été favorables. Les enfants auraient été tout seuls, ça aurait été une grosse catastrophe. Mais notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cet homme s'est levé et a exécuté la parole de Dieu. Nous avons quelque chose de formidable, nous, c'est que nous avons la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous croyons cette parole-là dans tout ce qu'elle nous dit? Ou bien nous la lisons simplement, nous disons, oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le Seigneur n'est pas venu pour qu'on dise, c'est bien. Il est venu pour que l'on vive ce qu'il nous dit. Est-ce que tu veux vivre la parole de Dieu? Est-ce que tu veux vivre pleinement cette parole? Alors, je peux te garantir, sans être un prophète. Je peux te garantir, parce que Dieu est fidèle, que si tu te mets à vivre cette parole selon ce que le Seigneur te dit, alors tes circonstances changeront. Alors pour toi, tu connaîtras la véritable révélation de la miséricorde du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. Veux-tu être guéri? Jésus-Christ est la véritable maison de miséricorde. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui vient et qui nous rencontre dans nos circonstances. Nous te louons, Seigneur, parce que toi, tu n'as pas honte de nous, Seigneur. Tu ne nous regardes pas avec un regard hautain. Tu ne viens pas pour nous juger. Tu viens, Seigneur, et tu veux prendre soin de nous. Merci, Père, parce que tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui transforme nos vies, Seigneur. Tu es celui qui nous donne accès au temple. Parce que ce paralytique, ensuite, s'est retrouvé dans le temple, ce lieu après lequel il a langui, après lequel il a tellement espéré. En toi, il a pu rentrer dans le temple. Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes ce libre accès auprès du trône de la grâce. Lorsque, Seigneur, nous choisissons de nous abandonner entre tes mains, de croire ta parole et de la mettre en pratique. Seigneur, nous avons besoin de guérison. Et cet après-midi, je te prie pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur, qui a besoin d'une guérison quelconque. Que ce soit une guérison physique parce qu'elle est malade, Seigneur Dieu. Que ce soit une guérison émotionnelle, quelque type de guérison que ce soit, notre Dieu, notre Roi. Je veux te prier dans ce lieu pour toutes les personnes qui ont besoin d'une visitation particulière de toi. Seigneur, fais grâce. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde, relève. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, guéris. Ô Roi de gloire, que ton nom soit exalté. Merci Père éternel, parce que tu as l'œuvre dans nos vies pour nous transformer et nous rendre toujours un peu plus semblables à toi. Que ton nom soit béni, Père éternel, en Jésus-Christ. Amen.